Alors, bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi 29 septembre 2022. Et on est de retour donc dans notre cadre habituel ici au bureau à l'église pour cette autre bénédiction matinale. On vous rappelle qu'on étudie pendant une période d'environ 25 à 26 semaines, peut-être même un peu plus. On étudie donc pas semaine, mais plutôt leçon, 26, 27 leçons environ. Donc, on étudie la question de la foi avec la thématique qui revient régulièrement dans le passage qui nous sert de base à notre réflexion, le fameux chapitre sur les héros de la foi qu'on aime appeler Hébreux 11. Et aujourd'hui, on est donc au verset 17 à 19. Hébreux 11, 17 à 19 pour ceux qui prennent des notes. Et c'est l'épreuve divine de la foi, où Abraham mis à l'épreuve par Dieu. C'est un concept sur lequel on se méprend régulièrement. Donc on va essayer de l'expliquer un peu, savoir pourquoi Dieu éprouve, comment Dieu éprouve. Et puis, on espère que ce sera une source de bénédiction et une source d'enrichissement pour vous tous. Alors, avant de débuter, on va prier, remettre ce temps entre les mains du Seigneur, puis nous prendrons le temps de lire, donc, c'est les trois versets 17, 18 et 19 du chapitre 11 d'Hébreux. On aura deux autres passages qu'on citera pour ceux qui prennent des notes et puis qui seront étayés un peu plus. Donc, l'ensemble des points qu'on verra aujourd'hui. Alors, prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Nous prions Seigneur que tu ouvres notre entendement. Des fois, on se méprend sur ta parole. On affirme des choses à ton égard qui ne sont pas vraies. On infirme d'autres choses qui ne sont pas plus véridiques. Alors on demande Seigneur que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres notre compréhension, que tu nous enrichisses par ta parole, cette parole que tu as préparée, voulue, désirée, en pensant à cette journée d'aujourd'hui. Tu savais qui écouterait cet enseignement, que ce soit aujourd'hui même, dans les prochaines minutes, ou que ce soit Seigneur, de façon différée ou plus tard dans l'avenir. Je te demande, Seigneur, que chacune des fois que quelqu'un écoutera, Seigneur, cet enseignement, ce soit une source d'enrichissement, une source, Seigneur, de prise de conscience et de connaissance auprès de toi. Alors que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et majestueux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Alors, je lis pour vous dans Hébreux au chapitre 11, les versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors je répète le texte. Hébreux 11, le verset 17 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. La première chose qu'on peut dire, Abraham a été mis à l'épreuve. Abraham a été mis à l'épreuve. Par qui? Mais par Dieu. Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu. Ici, c'est pas le diable qui vient tenter Abraham. C'est pas le diable qui veut faire échouer Abraham. C'est Dieu qui le met à l'épreuve. Et on le voit très bien dans le passage initial, ou le passage qui relate ces faits dans Genèse au chapitre 22, que vous pourrez lire du verset 1 à 19. Et on nous dit dans le premier verset, chose toute claire, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Alors, il n'y a pas de doute ici. Ce n'est pas une question de diable et de Satan qui vient troubler Abraham. C'est Dieu lui-même qui met à l'épreuve Abraham. Et le terme mettre à l'épreuve en grec, puisque on a deux textes ici, en grec et en hébreu. Le Nouveau Testament, je rappelle, a été écrit en grec. L'Ancien Testament, oui, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Donc, les deux termes pour que vous puissiez prendre les notes. En grec, épreuve ou mise à l'épreuve, c'est le terme peirazo. Peirazo. Donc, P-E-I-R-A-Z-O. Je répète, P-E-I-R-A-Z-O. Lorsqu'on prend ce même terme dans le texte de Genèse au chapitre 22, Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve, donc mettre à l'épreuve ou mise à l'épreuve, en hébreu c'est nakar, nakar, N-A-C-A-H. Je répète, nakar, N-A-C-A-H. Si on devait donner les définitions, des synonymes en français courant pour le terme mettre à l'épreuve, ça serait prouver, attester, révéler, essayer, démontrer. Je répète, les synonymes de mettre à l'épreuve en français courant, c'est prouver, attester, révéler, essayer, démontrer. Alors là, je comprends que certains vont se demander, mais pourquoi Dieu doit-il attester? Ou pourquoi doit-on être révélé à Dieu? Pourquoi Dieu aurait-il besoin de nous essayer? Pourquoi Dieu aurait-il besoin de démontrer notre état? Est-ce que ça ne signifierait pas donc que Dieu ne nous connaît pas assez? Que Dieu ne sait pas de quoi on est constitué? Assurément, notre Dieu sait tout. Il est omniscient, donc il connaît toutes choses, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un cheveu qui tombe de notre tête qu'il ne le sache. Il connaît exactement le nombre de cheveux, nombreux ou peu nombreux, que nous avons sur la tête, dépendamment de qui nous sommes et de l'âge qu'on a. Dieu connaît le nombre de cheveux. Et il n'y a pas un cheveu qui tombe de notre tête qui n'en soit conscient. Alors, lorsque Dieu nous met à l'épreuve, la théorie qu'on peut tout de suite écarter, c'est celle où Dieu a besoin de nous connaître. Dieu aurait besoin de savoir ce de quoi nous sommes constitués. Ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas du tout pour ça que Dieu nous éprouve. En fait, Dieu n'a pas besoin de se prouver à lui-même ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous valons, quelle est notre constitution. Il veut le prouver à d'autres. Et premièrement, à nous-mêmes. J'aime l'expression qu'on utilise plutôt en Europe lorsqu'on parle d'un examen scolaire, lorsqu'on parle d'un test à l'école. On appelle ça une épreuve de français, une épreuve d'anglais, de géographie, de mathématiques ou autre. Et l'épreuve ici n'est pas pour nous faire échouer, mais elle est pour prouver ce que nous sommes, ou prouver ce que nous connaissons, lorsqu'on parle donc d'une épreuve académique. La Bible nous parle dans Deutéronome 8, du verset 1 à 5, de l'épreuve du peuple d'Israël. Deutéronome 8, 1 à 5. Et vous allez voir qu'en lisant ce texte, on va comprendre un peu mieux ce que représente l'épreuve. Et Deutéronome 8, du verset 1 à 5, le verset 1 nous dit, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de l'humilier, afin de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas encore connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. » Lorsqu'on regarde ce texte, on nous dit « Oui, le Seigneur t'a humilié, oui, le Seigneur t'a fait souffrir de la faim, mais le Seigneur t'a nourri de la manne. Une nourriture que ni toi, ni tes pères ne connaissaient. Il a fait en sorte que tes vêtements ne s'usent point. Il a fait en sorte que malgré les 40 années de marche, tes pieds n'enflent point. Ton vêtement ne s'est point usé, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. L'Éternel châtie celui qu'il aime. L'Éternel éprouve aussi celui qu'il aime. Pour lui permettre quoi? Pour lui permettre de connaître son réel état. Non pas l'Éternel connaître l'état de l'homme, mais que l'homme connaisse son propre état. Lorsque le peuple d'Israël a été éprouvé, c'était pour faire ressortir à la surface, ressortir aux yeux même, à la constatation même du peuple, quel était son réel état ou sa véridique condition. Lorsque Dieu nous éprouve, c'est pour mettre à la surface, amener à notre connaissance notre réel état. Vous voyez, on a souvent une mauvaise opinion de nous-mêmes. Très souvent, on regarde nos vies et on va soit se juger trop sévèrement, soit avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Alors que Dieu a la pensée juste, mais il doit la prouver, cette pensée. Il doit l'attester par des preuves. Et lorsqu'il nous fait passer par une épreuve, c'est donc pour nous permettre de réaliser notre état. Mais lorsqu'on regarde l'épreuve de Deutéronome 8, du verset 1 à 5, on se rend compte qu'il s'est passé d'autres choses. C'est un peu comme l'or qui est passé par le feu. La foi aussi doit être éprouvée pour en attester la qualité. Dernièrement, le pasteur André a pris 2 dimanches de suite pour nous parler sur l'état de notre foi. Quand on parle de l'état de notre foi, on parle donc de la qualité même de notre foi. Notre foi est-elle de bonne qualité ou de faible qualité? Notre foi est-elle solide? Notre foi est-elle fragile? Cette foi-là ne change rien en Dieu, ne change rien quant à Dieu. Cette foi change tout quant à nous. Cette foi n'a pas d'incidence sur Dieu, mais cette foi a une incidence sur nous. Alors, comme l'or est éprouvé par le feu pour en attester la qualité, notre foi est attestée par l'épreuve, par le feu, pour en attester la qualité. Mais lorsque l'épreuve se passe, lorsque l'or est passé dans le feu, que se passe-t-il avec l'or? Il se liquéfie, il change et il laisse aller des scories. Donc des poussières, des morceaux, des éléments qui en feraient perdre de la valeur. Et le seul moyen de se départir de ces scories, de ces défauts, c'est de passer par l'épreuve du feu. À ce moment-là, chauffé à une très très forte intensité, l'état de l'or change, se liquéfie, devient plus malléable et se débarrasse, se dissocie donc de l'impureté. Notre foi qui est mise à l'épreuve va aussi être purifiée. Non seulement on va attester de la qualité de notre foi, mais elle va aussi en être purifiée. Elle va en être affinée pour en sortir plus pure, pour en sortir dans un état plus parfait et par conséquent pour en augmenter la valeur. Lorsqu'on dit que notre foi doit augmenter, c'est non seulement en quantité, mais assurément aussi en qualité. Lorsque on a un bijou ou une paillette d'or, on va dire, ben on prend ce caillou, on le fait chauffer, on le débarrasse de toutes les composantes qui ne sont pas bonnes pour en retirer simplement l'or. On le fait refroidir, on l'examine et on établit que l'or est donc de tel nombre de carats. Et par conséquent, on lui associe une valeur. Pour faire monter le nombre de carats, pour faire monter la valeur de cet or, il faudra encore une fois le passer par la chaleur, par le feu. Et ce faisant, cet or, bien que se débarrassant d'un certain poids, bien que se débarrassant de certaines parties, dans ce processus, bien sûr la quantité rétrécit, mais la qualité augmente. Alors lorsque nous voulons la foi, est-ce qu'on la veut tout simplement en plus grande quantité, ou la voulons-nous de plus grande qualité? Et c'est là où je crois que parfois on fait l'erreur. On essaie de chercher une dose de foi supplémentaire, alors qu'il faudrait plutôt veiller à ce que notre foi soit de qualité supérieure. Et c'est là où l'épreuve de la foi est importante. Ta foi ne peut pas s'affiner, ta foi ne peut pas se purifier, ta foi ne peut pas se débarrasser des mauvaises parties, et tu ne peux pas avoir un constat réel de l'état de ta foi et de la qualité de ta foi, à moins de passer par l'épreuve. Et l'épreuve se manifeste de différentes manières. Dans le cas ici d'Abraham, ça a été d'offrir son fils Isaac. Dieu savait que ça allait coûter à Abraham. Dieu savait que c'était demandant et exigeant. Mais à moins que notre foi soit secouée par quelque chose de solide, notre foi peut tout simplement stagner. Je vous rappelais ces dernières semaines d'un moment durant mon épreuve de la foi ou durant une de mes épreuves de la foi, alors que j'étais malade, quelqu'un qui pose une question à Daphné, à savoir est-ce que la foi de Florent a diminué, est-ce que il a abandonné la foi ou est-ce que sa foi en a été affectée? Et Daphné de lui répondre que la foi est importante lorsque tout va bien, mais qu'elle est encore plus précieuse et encore plus importante lorsque les choses vont moins bien. C'est à travers ce moment difficile que ma foi a pu croître en qualité, qu'elle a pu s'affiner. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de choses desquelles on se débarrasse, nos us, nos coutumes, nos façons de faire, qu'on a appris des autres, qu'on a calqué sur les autres, qu'on a recopié de ceux qui étaient autour de nous, pour avoir tout simplement une confrontation ou un tête-à-tête plutôt entre Dieu et moi, entre la situation et moi. Vous savez que lorsque vous faites face à la mort, lorsque vous regardez la mort droit dans les yeux, ben là, on ne peut plus faire semblant. Tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Tu es tranquille ou tu n'es pas tranquille. Tu es en paix ou tu n'es pas en paix. Et c'est là où la qualité de la foi vient se manifester. Lorsque nous sommes confrontés et poussés dans nos derniers retranchements, c'est là où la réalité de notre foi, la réalité de notre confiance en ces choses qu'on ne voit pas, la réalité de notre assurance en ces choses qui nous ont été promises et qui ne sont pas encore manifestées, c'est là, dans ces moments difficiles, que la foi va être révélée. Je ne sais pas par quelle situation tu passes aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu te positionnes face à l'épreuve de ta foi que tu as passée peut-être il y a quelque temps, que tu traverses aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, cette épreuve de la foi n'est pas destinée à t'anéantir. Cette épreuve de la foi n'est pas destinée à te détruire. Cette épreuve de la foi n'est pas destinée à ton échec. Cette épreuve de la foi est destinée à ce que tu obtiennes de la part de Dieu un constat réel de ton état devant lui. Un état ou un constat de l'état réel de ton abandon à Dieu, de ta confiance à Dieu. On reviendra dans la journée de demain à travers les points que cette épreuve de la foi a demandé à Abraham, ce fils qu'il a dû mettre sur un autel et offrir en sacrifice à Dieu. On va voir ce que ça représentait. Mais tout cela n'était pas pour la fin comme une défaite, n'était pas pour l'exclusion d'Abraham. Non, c'était pour faire d'Abraham un meilleur serviteur encore. Et non seulement pour que Abraham puisse s'améliorer, mais qu'Abraham ait aussi le droit légal d'obtenir des bénédictions. On le voit non seulement dans la situation d'Abraham, puisqu'à la fin de son épreuve, Dieu va dire « Je sais que tu ne me refuses rien, et voilà la bénédiction qui va venir vers toi. Voilà la bénédiction que tu auras. Ta postérité sera plus nombreuse que le sable de la mer. » Lorsqu'on pense à l'épreuve de Job, et ici ça a été une épreuve non pas que Dieu a initiée, mais que le diable a proposée, mais que Dieu a accepté. Dieu dit au tout début de sa conversation avec le diable, il dit « As-tu vu mon serviteur Job ? Il ne s'en trouve aucun autre sur cette terre qui soit aussi intègre. Il n'y a pas d'autre homme comme lui sur cette terre. » Et le diable de répondre à Dieu « Mais touche sa vie, touche ses possessions, touche les choses qu'il a autour de lui et assurément il va te renier. » Dieu savait qui était Job et Dieu savait qu'en dépit de cette épreuve, l'intégrité de Job était assurée. Et Dieu va dire au diable, allez, touche-le. Mais je te dis, Job ne cédera pas et Job n'a pas cédé. Quand le diable est revenu, Job était encore aussi intègre. Et là, Dieu dit, mais touche sa santé, fais-le dépérir. Et tu verras qu'il te renie. Et Dieu lui dit, fais ce que tu dis, mais n'atteins pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Tu as le droit de le rendre malade, mais tu n'as pas le droit de lui enlever la vie. Et le diable va faire ce qu'il a dit. Et Job, encore une fois, reste intègre. Que se passe-t-il lorsque Job finit cette épreuve? On nous dit que Dieu va le bénir de telle sorte qu'il va avoir le double de tout ce qu'il possédait avant l'épreuve. Job aurait pu être béni de Dieu sans l'épreuve. Mais à moins qu'il ne passe par cette épreuve, il ne pouvait attester face au diable qu'il avait le droit, l'égal et le mérite de ces bénédictions qui venaient de Dieu. Le diable aurait pu accuser Dieu d'être injuste, aurait pu accuser Dieu d'avoir protégé Job en dépit d'une intégrité non attestée. Job a pu prétendre à la bénédiction parce qu'il est passé par l'épreuve. Il y a de ces bénédictions auxquelles nous avons droit qui demanderont une épreuve. Je suis convaincu d'avoir expérimenté la présence de Dieu comme jamais auparavant en raison de cette épreuve et en raison de la foi affichée durant cette épreuve. Il y a de ces bénédictions qui t'attendent, mais que tu ne peux obtenir qu'à travers la clé qu'on appelle la foi. Le pasteur Sergio, dans sa première intervention sur la foi, il y a déjà quelques semaines, le dimanche, nous disait que la foi est comme une devise dans le royaume de Dieu. Une devise à travers laquelle nous nous emparons ou nous achetons ou nous accaparons de certains items. C'est la foi, cette devise qui nous permet de nous approprier des choses dans le royaume de Dieu. Mais cette devise doit être attestée. Est-ce que j'en ai la qualité? Est-ce que j'en ai la quantité? Est-ce que j'ai la foi que ça me prend pour effectivement m'accaparer, m'approprier tel ou tel domaine? La Bible dit, si nous avons la foi, nous dirons à cette montagne, va et jette-toi dans la mer, et elle le fera, si nous avons la foi. Si la montagne ne se jette pas, c'est que nous n'avons pas, ou nous n'avons pas en quantité suffisante. Mon frère, ma sœur, le point important pour ce matin, ne redoute pas l'épreuve. Ne redoute pas l'épreuve que Dieu envoie vers toi. Ne redoute pas l'épreuve parce que cette épreuve, c'est l'occasion que Dieu t'offre d'avoir une réelle connaissance de ton état. Assurément, me direz-vous, notre foi n'est pas assez forte, n'est pas assez grande, n'est pas assez de qualité. Mais parfois, on peut quand même se méprendre, même sur cette foi que l'on sait, pas assez grande, pas assez volumineuse, pas assez de qualité. On peut malgré tout se méprendre et penser qu'on en a suffisamment pour telle ou telle épreuve. C'est un peu comme l'essence avant d'aller sur un long trajet. Je crois qu'il y a une route entre le fjord du Saguenay et le lac Saint-Jean, donc dans ce qu'on appelle, je crois, le parc des Laurentides, je crois, si je ne m'abuse. Une route sur laquelle il n'y a pas de station-service avant plus de 100 km. Et là, on a des panneaux qui nous disent, voilà, il y a une station-service qui arrive dans 30 km, parce qu'après ça, il n'y en a pas une autre d'ici de nombreux kilomètres. Et ça, c'est pour avertir le conducteur d'aller faire le plein, de ne pas prendre le risque de s'aventurer sur un chemin dans lequel on ne peut pas arriver à terme. Dans la Bible, on nous enseigne de ne pas construire une maison sans avoir pris le coût lié à la construction, sans avoir pris connaissance du coût et sans avoir pris connaissance de nos ressources, à savoir si nous avons les ressources pour parvenir à la fin de cette entreprise. Mon frère, ma sœur, l'épreuve de ta foi te permet d'aller à la station-service et de dire « j'en ai besoin de davantage ». L'épreuve de la foi te permet d'avoir un constat réel devant Dieu pour dire voici ce que je dois améliorer, voici ce qui doit changer, voici là où ma foi a des limites. La foi n'est pas une chose uniforme chez tous les croyants. L'épreuve de la foi n'est pas plus uniforme chez tous les croyants. Chacun d'entre nous reçoit ou passe à travers une épreuve propre à lui, à travers d'épreuves au pluriel, propres à sa nature, à son appel, à sa mission. Oui, parfois l'épreuve est sévère, parfois l'épreuve est demandante, parfois l'épreuve fait peur. Mais la qualité de ma foi va s'afficher. Et je ne parle pas ici d'une épreuve de pacotille. Quand on parle de l'épreuve de la foi, c'est quelque chose qui vient nous confronter sérieusement. Ce n'est pas un pneu crevé un matin où tu dois te rendre au boulot. Ce n'est pas une petite grippe ou une petite toux un matin où tu dois faire un discours. Ce n'est pas la pinte de lait qui est vide ce matin-là ou le tube de dentifrice qui n'a plus rien. Ce n'est pas ça l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, c'est quelque chose qui vient t'ébranler, qui vient ébranler ta relation avec Dieu, qui vient mettre en géopardie ta communion avec Dieu. À savoir, vas-tu capituler et abandonner ou vas-tu avancer? C'est un peu comme mettre, oui, le pied dans quelque chose qu'on ne voit pas, un terrain qui n'est pas sûr, mettre les pieds sur l'eau comme Pierre qui sort de la barque et qui fait quelques pas. Et pendant quelque temps, il a réussi l'épreuve de la foi. Pendant quelques pas, il a réussi l'épreuve de la foi. Et à un moment donné, sa foi a diminué. En regardant les circonstances, en regardant la pluie qui continuait, en regardant le vent qui continuait, en regardant sa tunique qui se mouillait davantage, en regardant ses pieds faibles qui n'avait aucune logique quant à marcher sur l'eau. Il est arrivé à la limite de sa foi, et il a commencé à couler. Et Jésus lui dit, « Mais pourquoi as-tu douté? Pourquoi n'as-tu pas eu foi? » Il aurait pu marcher davantage. Il aurait pu aller jusqu'à Jésus. En cours de chemin, il s'est mis à couler. Pourquoi? Parce que sa foi n'était pas ce qu'elle devait être. Mon frère, ma sœur, prions ce matin que Dieu nous accorde sa grâce, mais que dans les épreuves de la foi que nous pourrions avoir dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, que nous soyons à la hauteur. Prions que notre foi prenne de la qualité. Prions aussi que Dieu nous conscientise sur le réel état de notre foi, qu'on ne se méprenne pas là-dessus, en pensant avoir bien de l'essence dans le réservoir et tomber en panne sèche. Abraham fut mis à l'épreuve. Pas pour que Dieu le connaisse, pas pour que Dieu le connaisse mieux, mais pour qu'Abraham connaisse ses propres limites. Et qu'Abraham atteste son droit aux bénédictions et au prochain statut qui serait le sien. Ami de l'Éternel, Père d'une grande multitude. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement du jour. Nous avons démystifié l'histoire de l'épreuve. L'épreuve qui vient de toi, contrairement à la tentation, qui vise notre perte, notre chute et notre défaite, voire même notre extermination. L'épreuve qui vient de toi sert à attester notre état réel, notre dépendance, ou les limites de notre dépendance envers toi. Chacun d'entre nous, lorsque tout va bien, un peu comme Pierre le disait, lorsque tout allait bien, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Tous peuvent t'abandonner, mais moi, Seigneur, je serai encore là. Et lorsque l'épreuve de sa foi s'est manifestée, il n'est pas allé aussi loin qu'il le prétendait. Et c'est face à cette réalité de l'état de sa foi qu'il a pu chercher la repentance, avec un cœur plus humble, avec une attitude plus modeste et avec une dépendance accrue de toi. Seigneur, Job a pu prétendre aux bénédictions. Abraham a pu prétendre à son titre de père d'une multitude et d'ami de l'Éternel, parce que sa foi a été éprouvée. David a été un homme selon le cœur de l'Éternel, parce que son cœur, sa foi, a été éprouvée. On aimerait tous, Seigneur, être comme ces grands héros du monde biblique. On aimerait tous être comme ces héros de la foi dont nous parle Hébreux 11. Mais on ne peut pas être ces grands hommes et ces grandes femmes, à moins que notre foi aussi soit éprouvée. Alors Seigneur, nous ne résisterons pas à l'épreuve. Au même titre où un étudiant, comme un disciple, un élève de Christ, doit apprendre, mais l'apprentissage est aussi mis à l'épreuve, avec des tests, avec des examens. Je prie Seigneur de pouvoir t'honorer, honorer ton enseignement, honorer les soins que tu me portes en réussissant l'épreuve de la foi. Honorer le mandat que tu m'as confié, honorer la confiance que tu as en moi en réussissant mon épreuve de la foi. Seigneur, je ne résisterai pas, je ne me défilerai pas. J'accepterai, Seigneur, cette épreuve afin de voir réellement où j'en suis rendu. De ne pas me méprendre sur mes réserves, de ne pas me méprendre sur mon état. Et afin, Seigneur, d'avoir droit à travers les faibles succès que l'épreuve de ma foi amènera, que je puisse prétendre, Seigneur, aux bénédictions. Paul va dire qu'il a combattu le bon combat, une épreuve de son parcours, qu'il a couru la course, une autre épreuve sportive de sa course, et que maintenant qu'il avait combattu le bon combat et qu'il avait achevé la course, il pouvait prétendre aux bénédictions qui venaient avec l'amour qu'il avait eu envers ton avènement. Je prie, Seigneur, d'avoir cette même assurance qui émanait de notre frère Paul, afin que même dans les moments difficiles de ma vie, je puisse encore avancer et progresser. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voici ce que nous avions ce matin. On se retrouve demain, toujours avec ce même passage. On va voir demain comment Abraham a répondu à l'épreuve de la foi. Comment et pourquoi il a répondu comme il a répondu. Alors on se retrouve demain, 8h30, pour notre prochain enseignement. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.